This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Hello, chers auditeurs d'Homicide. On est absolument ravis de vous retrouver aujourd'hui dans cet épisode spécial coulisses de Homicide. Aujourd'hui, je dis on car je ne suis pas seule. Je suis avec mes deux partenaires depuis le début de cette aventure, Pauline Ayoun.
Bonjour Pauline. Salut Caroline.
Qui est responsable éditoriale ici chez Bababam. Et Julien Roussel. Salut Julien.
Salut Caro.
Qui est monteur son de tous les podcasts ici. Julien, ça te fait pas bizarre d'être là ?
Ah si, moi jamais je penserais d'être ce côté du micro. C'est assez impressionnant en fait.
Ouais, j'imagine. Bah voilà, tu vois ce que je subis en permanence avec toi.
Bien sûr.
Voilà. Pauline ?
Bah si, ça fait bizarre de passer de l'autre côté du micro, mais ça fait plaisir aussi pour les un an de Homicide, parce que ça fait déjà un an Homicide existe.
Bah oui.
En un an, bah, c'est devenu un de nos podcasts phares chez Bababam. Il réunit plus de des centaines de milliers d'auditeurs chaque mois, donc on en est très contents. Et justement, on a pas mal d'auditeurs qui se posent plein de questions sur le format.
Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris les questions que vous nous avez envoyées. On les a sélectionnées. Enfin, en tout cas, on va essayer de répondre au mieux à toutes les questions qui nous ont été envoyées pour vous dévoiler, comme tu disais, Pauline, les coulisses de la fabrication de ce podcast. Alors, qui se lance ?
Vas-y, présente-toi, Caroline. Vas-y. Dis-nous qui tu es.
Je suis la voix de Homicide. Pas que. Non, donc je suis Caroline Noguera et je suis ce qu'on appelle la host de Homicide. Donc c'est avec moi que vous découvrez ces histoires de faits divers que je travaille en amont, que nous décidons ensemble avec Pauline et ensuite que met en son Julien. Voilà,
ça
c'est pour la base.
Et moi, du coup, donc je suis Pauline, je suis directrice éditoriale et audience chez Bababam depuis bientôt 2 ans. Mon boulot, c'est de piloter tous les formats qu'on produit chez Bababam, donc les podcasts signatures, donc on en a une dizaine. Donc on a autant des récits comme Homicide que des fictions, du décryptage d'actualité, etc. Et plus particulièrement sur Homicide, j'accompagne Caroline sur le choix des sujets et la manière dont ils vont être traités. Et une fois qu'une saison est réalisée, mon travail, c'est de faire en sorte que la saison fonctionne et qu'elle touche le plus de monde possible. Et toi, Julien ?
Julien, je suis ingénieur du son à Bababam depuis, comme Homicide, depuis un an bientôt. Et je m'occupe de la prise de son et du montage, du mixage des épisodes.
Et la réalisation du
La coup, réalisation avec l'aide de Caroline. Tout ça, c'est un petit travail d'équipe. Et il y a le avant un peu, et le après, c'est Pauline. Et le pendant, il y a Caroline qui enregistre. Et moi, je fais entre les deux le montage, mixage.
Donc, vous avez été plusieurs à nous demander comment Homicide, le podcast, est né. En fait, tous les ans, avec Pierre Orlac et Nadia Leroy, qui sont les deux patrons de Bababam, on se réunit autour d'une table pour savoir quel format on va lancer l'année qui suit. Donc, fin d'année dernière, donc fin 2019, on s'est réunis, comme chaque année, et du coup, on voulait absolument monter un podcast fait divers. Pourquoi le fait divers ? Parce que moi, personnellement, je suis journaliste, je sais que c'est quand même un domaine qui intéresse beaucoup de monde et qui, moi, personnellement, m'intéresse aussi. Sauf que, voilà, on savait qu'il y avait beaucoup de formats, que ce soit en radio ou en podcast natif, qui existaient autour du fait divers, donc on voulait quand même se démarquer. Et du coup, il fallait qu'on trouve un angle précis à ce format. Donc, du coup, on s'est intéressé à la famille. Pourquoi la famille ? Parce que souvent, derrière un crime familial se cache une histoire très forte, très puissante, des liens unique quand même qui, du coup, qui nie le meurtrier, la victime, etc. On savait qu'on aurait des choses fortes à raconter et on voulait aussi se démarquer en faisant quelque chose de feuilletonnant, donc en proposant un épisode chaque semaine pour faire en sorte que tout au long du mois, on raconte la même histoire avec des angles différents. Et du coup, bah, Caroline, je te laisse enchaîner.
Alors, je rebondis sur ce que tu disais, sur pourquoi on a choisi aussi les faits divers en famille. Agatha Christie, que tout le monde connaît, qui est quand même la papesse du polar des livres, eh ben elle a très souvent utilisé la famille comme point de départ pour raconter ses crimes. Donc déjà, c'est quand même une notion qui date depuis il y a un moment sur le fait qu'on pense que la famille, la maison, est un lieu serein et plutôt protégé. Et malheureusement, on se rend compte que très souvent, le mal peut arriver de quelqu'un qui est très proche et notamment quelqu'un de sa famille. Voilà, donc je pense qu'en effet, c'était une super idée que vous aviez eue à la base de partir sur des crimes intrafamiliaux, même si peut-être on élargira un tout petit peu à terme, on verra comment va évoluer ce podcast. Pour ma part, moi je suis journaliste aussi pour la télévision à la base depuis de nombreuses années. Je traite des sujets de société en télévision. Et bien évidemment, au travers de mon métier, j'ai été amenée à traiter des faits divers. Je voulais, de toute façon, faire évoluer mon activité vers de l'audio, car j'aime la voix, j'aime le son et j'aime les vieilles archives et tout ce que ça raconte et toute l'ambiance qu'il y a autour. Donc, j'ai fait une formation de podcast. Et puis, j'ai rencontré Pierre Orlac. Et Pierre s'est dit peut-être que j'étais la bonne personne pour incarner ce podcast de faits divers et puis pour l'enquêter, parce que j'avais aussi cette expérience de l'enquête que j'aime mettre en avant aussi et qui pour moi est nécessaire. Je ne fais pas simplement qu'ouvrir un livre quand je fais ces podcasts, mais il y a une vraie enquête qui est faite derrière. Et là où c'est super, je trouve, c'est que... à la fois avec Pauline, où on réfléchit avant sur quel sujet on va partir et pourquoi on va faire ce sujet, et à la fois après avec Julien, on arrive à créer un podcast qui nous appartient avec notre identité qui est vraiment la nôtre. Je trouve que là-dessus, enfin, on a le droit d'être content.
Hein. Mmh. Ah, bien sûr.
Et surtout, Caroline, tu avais aussi l'habitude du long format. Enfin, oui. Tu as l'habitude du long format. Donc,
c'est vrai. Ouais, je ne fais que des formats longs en télévision. Les sujets les plus courts que je fais en général, c'est des 26 minutes. Donc, de toute façon, j'ai du mal à raconter une histoire en 5 minutes.
Et toi, au début, justement, quand Pierre t'a appelé, est-ce que tu y croyais ou pas? Est-ce que... comment tu as reçu cette nouvelle?
Alors, moi, de toute façon, j'avais rencontré Pierre dans l'idée de faire un autre format du podcast, oui. Chez Bababam, oui, parce que j'aimais l'esprit que j'avais... trouvé chez Bababam au travers de conférences que j'avais suivies, que Pierre avait données sur le podcast, etc. C'est comme ça que j'avais été interpellée par son discours. Je n'étais pas du tout partie pour faire du fait divers en podcast, en revanche. Et c'est Pierre qui m'a proposé de faire du fait divers. Et moi, de manière très sincère, je pensais que ça ne marcherait pas parce qu'il y avait déjà beaucoup de podcasts de faits divers, beaucoup d'émissions de télé, beaucoup de livres. Et je pense que justement, c'est pour ça que Homicide marche. C'est parce que finalement, il y a encore une place pour le fait divers et que le fait divers est une matière intarissable, malheureusement, et qui raconte beaucoup de choses de notre société. Donc en fait, il y avait sa place et Pierre avait raison de me proposer ça. J'ai un peu hésité au départ parce que je ne voulais pas être stigmatisée avec la journaliste qui fait du glauque. Mais finalement, je trouve que dans la manière dont on a réussi à traiter les histoires, on n'est pas trop dans le glauque, on arrive à s'en détacher. Il y a une question de Laura, peut-être.
Alors, je vais la lire puisqu'elle s'adresse à toi, Caro. Comment sources-tu tes sujets?
Alors, comment sources-tu tes sujets? C'est intéressant, je vais répondre en deux temps. La première, c'est que je ne vais pas tout vous dire parce que, comme je suis journaliste, il y a le secret des sources. Donc, je ne vais pas tout révéler et je n'ai pas à dévoiler justement mes sources. En revanche, je lis beaucoup. Je commence par faire ce qu'on appelle une revue de presse du sujet que l'on va traiter. Je regarde tous les livres qui sont parus sur cette affaire. J'essaye au maximum de les lire. Alors évidemment, quand il y a un ou deux livres, c'est bien. Quand il y en a 10, c'est plus compliqué. Et puis, j'appelle les avocats. des affaires. Si je peux, j'appelle le procureur. Voilà, j'appelle tous les gens qui ont participé. Je peux appeler aussi les familles des victimes, les familles des agresseurs, si ça accepte de parler. Et puis, je reçois souvent le document qui s'appelle la mise en accusation de l'affaire, de l'accusé. Donc là, c'est une mine d'or, parce que comme ça, je ne fais pas de bêtises, parce que ce document synthétise tout ce qui s'est passé pendant le temps de l'instruction. C'est hyper important, cette mise en... Ce document, voilà.
Ce document, il est accessible à tous ou il faut être journaliste
Alors, c'est ce document, moi, je le demande en général, soit au proc, soit à l'avocat, voilà. Libre à eux de me le donner ou pas, mais souvent, comme l'affaire est déjà traitée, il n'y a plus de secret, en fait.
D'accord.
Il n'y a plus de secret d'instruction. Mais en tout cas, il est très important parce que comme ça, ça me permet de ne pas faire d'erreur. Parce que dans ce document, on a nommément ce que les gens ont dit, voilà, entre parenthèses, etc. Donc, par exemple, quand vous entendez dans ce podcast des voix de comédiens qui disent ce que les personnes ont dit, vous pouvez avoir l'assurance que c'est vraiment ce que les gens ont dit.
Mot pour mot.
Mot pour mot. D'accord. Voilà, exactement.
Avant le sourcing d'un sujet, donc, il faut évidemment se mettre d'accord sur un sujet, sur une affaire à traiter. Et justement, il y a Alice qui nous demandait comment on choisissait les affaires qu'on allait raconter et quels sont les critères. En général, c'est plutôt Caroline et moi, du coup, qui réfléchissons ensemble à des affaires. C'est pas une commande que nous, bababam, on fait à Caroline. C'est un vrai échange, une vraie conversation. Alors, évidemment, les critères, il faut que ce soit donc des affaires intrafamiliales. Mais comme Carole a dit, on peut aussi s'ouvrir, par exemple, aux histoires de couple. Et il faut surtout que l'histoire ait du contenu et qu'elle soit intéressante à raconter.
Et suffisamment longue.
Et suffisamment longue.
Qu'il se passe suffisamment de choses. Oui. Il y a une autre chose aussi, Pauline, sur laquelle on travaille beaucoup, on fait attention. Il faut que dans chaque saison, on raconte un fait de société différent.
Exactement.
Voilà, ça c'est important pour nous. Vous n'allez jamais entendre deux fois de suite des histoires similaires qui racontent le même fait de société. Pour exemple, on a déjà traité l'affaire de néonaticide, qui est un sujet qui est peu traité finalement. Nous, on a voulu en parler parce que c'est un phénomène de société. Le féminicide.
Avec l'affaire d'Aval.
Avec l'affaire d'Aval, très justement. Et on a aussi parlé d'erreurs judiciaires, par exemple.
Les enquêtes bâclées, ouais.
Voilà, des enquêtes bâclées. Des disparitions, avec l'affaire Nadine Chabert. Voilà. Donc, en général, on se pose toujours la question, avec Pauline, attends, qu'est-ce qu'on va raconter derrière cette histoire? Et ça, pour nous, c'est essentiel. On ne choisit pas simplement en ouvrant la PQR ou un canard, en se disant, tiens, cette histoire, elle a fait beaucoup de bruit, on va en parler. Si on ne la tient pas dans la durée, et si derrière, il n'y a pas une information et un fait de société à raconter, on n'y va pas.
Exactement.
D'accord. Ouais.
Ensuite, donc toujours sur l'avant, hein, Julien, tu parleras de l'après plus tard, ouais. Du coup. Joël nous demande, certaines histoires sont-elles plus difficiles? T'arrive-t-il, du coup, Caroline, de ne pas en retenir si elles sont trop douloureuses ou monstrueuses?
Alors, oui et non. C'est-à-dire que, je vais vous donner des exemples, l'affaire Dominique Cotteret, qui est donc un octuple infanticide, m'a bouleversée. J'y ai beaucoup réfléchi. Il m'est arrivé de me réveiller la nuit et de penser à cette affaire, mais je ne me voyais pas ne pas la traiter, justement parce qu'elle était très forte. Mais ce que je fais dans ce cas-là, c'est que je ne vais pas trop dans le détail du sordide, justement, d'abord pour protéger l'auditeur et pour me protéger moi-même. Voilà.
Et c'est surtout ce vers quoi on ne veut pas tendre.
Et de toute façon, Homicide n'ira jamais vers du sordide gore, juste pour faire du gore et du sordide. Ce n'est pas notre marque de fabrique et ce n'est pas ce que nous avons envie de mettre en avant.
Non, nous, au-delà du crime, on veut vraiment raconter une histoire et, comme l'a dit Caroline, un phénomène de société. Là, en l'occurrence, c'était le néonaticide dont on parle très, très peu et qui pourtant existe. Et là, en l'occurrence, c'était l'affaire emblématique en Europe pour en parler.
Moi, c'est ce que je trouve dans Homicide qui est très différent des autres podcasts de faits divers, c'est ce détachement des choses faciles à faire comme le gore et tout ça, et le côté très psychologique des personnages qui, certes, souvent dans les saisons d'Homicide, il y a un épisode dédié entièrement à une personne, qui elle était, comment elle en est arrivée là. Et je trouve ça vraiment intéressant.
En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on raconte comment parfois la société a façonné le criminel.
C'est ça, oui.
Voilà. Et ça, je pense qu'en effet, je suis d'accord avec toi, Julien. C'est bien qu'on aille là-dessus. En tout cas, ce sera toujours une chose sur laquelle on insistera dans nos podcasts.
Ensuite, il y a Marie-Lou qui nous demandait si on avait besoin de l'accord des familles pour raconter leurs histoires.
Ben oui, c'est une bonne question, ça. Est-ce qu'on a besoin de l'accord des familles? Eh bien, en fait, non, à partir du moment où on relate des dires qu'ils ont déjà dit. C'est-à-dire que c'est déjà tombé dans le domaine public, ce qu'ils ont raconté. Sauf si, évidemment, entre-temps, ils ont porté plainte pour diffamation. Évidemment, je ne vais pas reprendre des propos. Si derrière, il y a une plainte, je fais attention. Mais si ce sont des propos qui ont été dits dans des livres, ou des propos qui ont été dits dans des procès, mais dont j'ai l'écrit. Voilà, tous les propos, de toute façon, qui ont déjà été médiatisés ou qui, de toute façon, on sait qu'ils ont été révélés, je n'ai pas de problème à les reprendre. Mais c'est le cas, de toute façon, pour tous les journalistes qui travaillent de la même manière que moi. Voilà, on fait très attention à ce qu'on dit. Lorsque, d'ailleurs, vous ferez attention, mais je mets très souvent, j'emploie très souvent le conditionnel quand on n'est pas sûr des choses. Voilà. Ça aussi, le conditionnel, c'est important parce que ça me permet de me mettre un petit peu en retrait par rapport à ce qui a été dit. Voilà. C'est des petites astuces comme ça qu'on a. Mais non, Marie-Lou, nous n'avons pas besoin forcément de l'accord d'une famille pour parler d'une affaire.
Heureusement. Parce que sinon, tout serait sorti déjà.
Ouais, ou à l'inverse, on ne pourrait plus jamais rien dire, quoi. Ouais.
Ah, oui.
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Une question de Joël, donc je ne sais pas si c'est la même Joël ou pas, mais en tout cas, une question de Joël. Je vais me tourner vers toi, Julien. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler sur le format podcast et en quoi, pour toi, c'est quelque chose de plus ou moins intéressant à monter, à réaliser?
Alors, le podcast, c'est... Je suis assez jeune encore, donc j'ai pas eu vraiment beaucoup d'expérience dans ma vie, mais j'ai pu faire... du mixage, du montage pour du film, pour des produits, enfin du son à l'image. Et on se rend compte que quand on fait du son à l'image, le son, il est sur l'image, quoi. On n'a pas une liberté totale de ce qu'on fait. Alors que dans le podcast et dans les formats audio, complètement audio, on n'a pas cette image sur laquelle on peut se reposer. Donc, c'est à double tranchant parce qu'à la fois... on n'a aucune base sur laquelle se poser pour tout ce qui est montage et attention artistique, mais on n'a pas non plus le blocage qui dit « Ah ouais, là, j'aurais bien aimé faire ça, mais ça ne correspond pas à l'image. » Donc, on peut...
En fait, ça te donne une certaine créativité que tu n'aurais pas avec un support image
aussi.
C'est
ça. En fait, c'est ça, mais les deux types de montage sont complètement différents. Il y a toujours une grande créativité dans le montage du son à l'image, mais... J'aime bien le fait de se dire que l'auditeur qui écoute, il n'aura aucun autre support que son casque, ses écouteurs ou ses enceintes. Et que c'est à nous d'absolument tout faire pour rendre la chose la plus crédible possible, la plus parfaite. Parce que s'il ne comprend pas bien un son, il n'aura pas l'image pour regarder « Ah tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer ?» et tout. Donc j'étais très séduit par cette idée. Après, pourquoi le podcast précisément c'est une question.
Tu aurais voulu travailler en radio ?
Au début, je me disais, pourquoi pas la radio ? Et la vie m'a amené vers Bababam à faire du podcast. Donc pour l'instant, je suis ici et ça me plaît beaucoup. Donc
après, t'es sur un format émergent qui a plein d'avenir.
C'est ça. Ah oui. Alors oui, ça c'est pour le coup, on le sent. Que c'est clairement un nouveau média qui est en train de se créer, d'émerger. Et ça fait vraiment plaisir d'être dans un univers qui est en constante évolution et constante ouverture.
Et justement, jusqu'où se place ta liberté quand tu montes un épisode de Homicide, par exemple ? Est-ce que toi-même, tu t'imposes des codes, etc. ou
Alors, Il n'y a pas vraiment de code très strict, parce qu'encore une fois, on peut un peu faire ce qu'on veut, mais il y a des intentions de réalisation que souvent me propose Caroline. Et puis même, à force d'en monter, on garde un certain mood. Mais je pense que le gros de l'inspiration dans le montage d'un podcast, c'est l'affaire en elle-même. Et autant, il y a des affaires qui me donneront plus envie de monter comme ça, d'autres plus comme ça. Par exemple, l'affaire Dominique Cotteret, c'est vrai que elle m'a vraiment bouleversé.
Elle nous a tous bouleversé, ça.
J'ai vraiment eu du mal à la monter parce que j'avais vraiment des problèmes, parce que dès que je mettais un son pour essayer d'illustrer ce que Caroline disait, je me disais mais tout de suite on s'imagine des choses atroces et c'est insupportable à l'écoute. Donc là, je me suis rendu compte qu'il a fallu que je revoie un peu à la baisse le montage, un peu moins illustré, un peu plus passé dans tout ce qui était ambiance sonore derrière, musique.
C'est vachement intéressant ce que tu racontes, parce que je trouve, moi je le dis depuis le début, hein, je trouve que l'habillage sonore participe activement à ce que l'auditeur va ressentir.
Bien sûr.
C'est-à-dire sur l'affaire Dominique Cotteret, c'est marrant que tu en parles, parce qu'on aurait pu, c'était très facile d'aller dans le mélodrame, dans le truc gore, tu aurais pu l'appuyer en musique.
Bien sûr.
Et nous, on a fait le choix d'appuyer, évidemment, avec ses ambiances et de la musique, mais tout en restant assez neutre. Et pourtant, ta musique appuyait quand même mon propos, mais je trouve qu'on n'est pas allé non plus dans le terrible, dans le gore,
bien sûr, ouais,
dans la facilité, en fait.
Voilà. C'est
un équilibre.
C'est un équilibre, parce que je n'ai pas trouvé la bonne musique dès le début. La première, elle était trop dramatique, la deuxième, elle était trop neutre, et c'est vraiment à savoir ce qu'on veut pour trouver la bonne musique et le bon équilibre. Et c'est, je trouve cet équilibre dans Homicide qui est vraiment très intéressant. C'est jamais trop neutre, comme vraiment une affaire qu'on déblate comme ça. C'est jamais trop dans le sensationnel, avec plein de sound design, du gore, des musiques.
On nous demande, Pascal nous demande, est-ce qu'un mixage binaural est envisagé pour Homicide ?
Vas-y, Julien, explique-nous déjà ce qu'est le binaural.
Tout d'abord, à la base, c'est une technologie de prise de son qui vise à recréer parfaitement l'acoustique qu'entend un être humain. Donc, vous avez sûrement déjà vu, que ce soit sur YouTube ou même souvent dans les conférences de podcast, les fameuses têtes avec qui ont des vraies oreilles et qui ont des petits micros à l'intérieur des oreilles. C'est comme ça que se fait la captation binaurale. Donc c'est une captation en stéréo, donc deux canaux, mais qui prend en compte la forme de la tête humaine. Les ingénieurs qui ont construit ces têtes ont fait des dizaines et des dizaines de mesurements de têtes, et sont arrivés à une tête moyenne. Quelle était la tête moyenne d'un être humain? Et c'est comme ça qu'ils ont construit cette tête, pareil, avec la forme des pavillons de l'oreille.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on est le sentiment de vivre l'expérience.
D'être en plein milieu.
Voilà, à un moment donné, on va avoir le son à gauche, à un moment donné, on va avoir le son à droite, le son devant, le son derrière.
Mais tu expliquais... Concrètement, c'est ça, ouais. C'est vraiment, quand on écoute un podcast en binaural,
ça spatialise le son, en fait.
Tout autour de soi, sans avoir des enceintes tout autour de soi. Parce qu'on n'est pas dans une salle de cinéma, on a juste un casque
pourtant,
sur les oreilles, et pourtant, on entend des choses derrière nous, au-dessus, en dessous.
Mais est-ce que c'est possible, ça, pour Homicide, Julien ?
Pour Homicide, alors, ce serait possible.
Les gens qui écoutent en voiture, par exemple.
Bien sûr, ce serait possible, mais alors, le format binaural ne fonctionne qu'avec une écoute binaurale, c'est-à-dire un écouteur dans chaque oreille, donc soit au casque, soit avec des écouteurs, et ça limiterait grandement le support d'écoute sur lequel les gens peuvent entendre Homicide. Dans une voiture, sur sa chaîne IFI, dans sa chambre, ce ne serait pas possible, parce que tous les bienfaits du binaural sont réunis quand on a un casque, et quand on n'a pas de casque ou pas d'écouteur, ça ne rend pas bien du tout.
Pauline, Mathilde demande, comment devient-on podcasteur ?
Bah moi, je ne suis pas podcastrice. Moi, je travaille avec des podcasteurs. C'est une très vaste question. Il faut déjà être passionné par le son. Il faut vouloir raconter, avoir envie de raconter des histoires. Après, je pense que Caro y répondra mieux que moi, parce que la podcastrice, c'est Caro, c'est pas moi.
Je sais pas s'il y a une réponse à cette question, on a tous des parcours un peu différents quand on est podcasteur. Il y a ceux qui se font sur le tas, qui se disent allez je me lance, qui achètent du matos chez eux et puis qui bidouillent et puis qui en sortent un podcast avec la qualité ou pas, mais en tout cas qui se lancent. Donc pourquoi pas se lancer tout seul et puis vous verrez. Et puis il y a ceux comme moi, en l'occurrence, qui ont une formation de journaliste. Donc, de toute façon, moi, j'avais fait une école de journalisme qui m'avait appris à la fois à faire du reportage télé, à la fois à faire de la radio. Donc, j'avais quand même déjà appris à poser ma voix. Puis, j'ai commencé en radio il y a plusieurs années. Et puis, qui m'avait appris à écrire. Donc, voilà. Donc, j'ai eu la chance quand même d'avoir une qualification qui pouvait me permettre d'aller à l'audio. Et puis, je pense que, comme tu disais, Pauline, il faut être passionné par le son, par ce format, voilà, d'être uniquement emporté par une voix. Et puis, il faut tenter sa chance. Hein. De toute façon, j'ai pas vraiment d'autre chose à dire.
Il n'y a pas de formation. Je ne pense pas qu'il y ait de formation en podcast.
Il y a des petites formations quand même qui existent aujourd'hui.
Oui,
il n'y a pas encore d'école, mais moi, j'ai fait quand même une formation qui m'a permis une petite remise à niveau. Donc, voilà, Mathilde, si tu veux être podcasteur, il faut savoir qu'il existe des formations. Il faut que tu te renseignes. Qui peuvent être financés, il faut être curieux, il faut regarder, mais voilà, tout est possible. Et il faut avoir de bonnes idées quand même. Hein. Mmh. Si c'est juste pour raconter tout et n'importe quoi, je pense que ce n'est pas la peine d'y aller.
L'important, c'est comme dans tout format émergent, c'est comme on l'a vu avec un peu l'explosion de YouTube il y a quelques années, c'est l'originalité qui fait qu'on va réussir à se démarquer. Et
trouver son ton, sa voix.
Trouver son ton, sa voix. Après, le podcast,
son personnage.
Ça reste un média... Je ne sais même pas si je peux employer le mot média, mais ça reste... C'est un média, d'accord. Et ben, ça reste un média qui est très accessible techniquement et artistiquement. Techniquement, parce que du matos pour s'enregistrer chez soi tranquillement, ça ne coûte vraiment pas cher. Mm-hmm.
C'est très accessible.
Et même artistiquement, on est libre de dire ce qu'on veut et de faire ce qu'on veut. Il n'y a pas de format précis à respecter, il n'y a pas de durée précise
c'est
à faire.
Ça, c'est bien.
Et c'est un peu comme le journalisme dans le sens où on n'a pas besoin d'être diplômé pour devenir journaliste.
En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de faire du podcast, qui ont vraiment envie, mais qui ont peur de se lancer. Peut-être parce qu'ils ont peur de la technique ou qu'ils ont peur de ne pas être écoutés.
Ouais, il y a plein de tutos aujourd'hui.
Il existe énormément de tutos sur Internet pour apprendre à s'enregistrer, à avoir un son bien plus que correct. Je pense que la technique, c'est pas ce que les gens écoutent en premier. C'est vraiment la voix de la personne, si ce qu'elle raconte est intéressant et son propos. Donc... Faut pas avoir peur de se lancer parce qu'on a peur que l'enregistrement soit de mauvaise qualité ou quoi. C'est vraiment secondaire.
Moi, j'en profite pour remercier mes auditeurs parce que je sais qu'ils sont chaque mois de plus en plus nombreux. Et il y a un truc qui est formidable, c'est quand vous partez de rien et que tout d'un coup, il y a des gens qui vous suivent. Alors là, c'est absolument formidable. Et je pense que Pauline et Julien et moi-même... on est hyper heureux de ça, parce que quand on s'est lancé dans cette aventure, on ne savait pas si vous alliez être 5 derrière vos écouteurs, ou 1000, ou 10 000, ou 100 000, ou bien plus. Et c'est bien plus, et c'est tant mieux. Et pour nous, c'est une formidable aventure qui continue, et on va continuer à vous proposer des faits divers qui, j'espère, vous raconteront une histoire derrière l'histoire.
Bah, t'as tout dit. Merci en tout cas d'être aussi nombreux, de nous faire confiance. Pour nous, c'est un plaisir en tout cas de raconter ces histoires.
Ah bah, non mais moi, tout ce qui a été dit, c'est vrai, vraiment, merci.